Alors, dans la Bible, il y a le message de l'Évangile. Et le message de l'Évangile nous explique comment être réconcilié avec notre Créateur. On apprend que par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous pouvons être pardonnés si on croit en lui, si on le reçoit, et on peut être sauvé. Dans l'Épître aux Romains, il est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est une promesse de Dieu. Tu seras sauvé. Il ne dit pas tu seras peut-être ou tu auras quelque chance de... Non, il dit tu seras sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé du jugement final de toute âme. À ce jour-là, tu échapperas à la mort éternelle parce que tu as Jésus-Christ comme sauveur. Le programme de Dieu pour nous, c'est qu'à partir de ce salut que l'on acquiert par la foi, on devienne de plus en plus saint et de plus en plus près de Jésus-Christ. Ça s'appelle la sanctification. Donc d'abord, il y a le salut, c'est-à-dire la conversion, le pardon, mais à partir de là, un chrétien doit progresser pour être saint. Nous savons que le salut s'obtient par la foi, sans les œuvres, sans mérite. On ne fait pas d'effort pour gagner son salut parce que aucun effort ne peut gagner le salut. C'est un cadeau de Dieu qu'on reçoit gratuitement quand on se convertit, quand on se tourne vers Christ. On accepte ce cadeau du pardon et de la vie éternelle. Et souvent, quand on est nouveau chrétien, on pense que le salut, c'est gratuit par la foi, mais que la sanctification, il faut la mériter, il faut travailler dur. Et autant on commence par la grâce, après on continue par la loi, c'est-à-dire on dit, ah ben quand tu es chrétien, il y a des règles, attention, tac, 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 il faut suivre la loi de Dieu, etc. Et le chrétien se met sous une loi qui est assez décourageante parce qu'en général, il n'arrive pas à appliquer toute la loi de Dieu. Dans l'Épître aux Galates, Paul a dit, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu le Saint-Esprit ou par la prédication de la foi? Alors il ne donne pas la réponse, mais nous connaissons la réponse, c'est par la foi qu'on a reçu le Saint-Esprit. Alors il dit, êtes-vous dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? C'est-à-dire, vous avez compris que le salut, c'est par la foi, par l'Esprit de Dieu. Et vous voulez maintenant vous sanctifier par la loi, par des efforts. Et ce que j'aimerais qu'on voit ce matin, c'est comment aller plus loin dans notre vie chrétienne, comment passer à un autre stade, hein, les étapes de la vie chrétienne. Et il y a un passage pour moi qui est un passage clé, qui, quand j'étais jeune chrétien, a ouvert mes yeux vraiment sur la vie chrétienne et qui a ouvert les yeux de beaucoup de monde, évidemment. C'est Jean chapitre 15, le fameux passage du cep et des sarments. Et j'aimerais qu'on voit quelques versets de Jean chapitre 15 pour comprendre comment aller plus loin. Jésus commence en disant, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Il donne donc une illustration de la foi, de la relation avec Dieu. Dieu est le vigneron, Jésus est le cep. Et qui est la vigne? La vigne, ce sont les croyants. Dans l'Ancien Testament, en Ésaïe chapitre 5, Dieu compare Israël à une vigne. Mais malheureusement, cette vigne n'est pas bonne. Elle n'a pas porté de fruits, je vais vous lire. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé, donc c'est Dieu, avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, il ôta les pierres et il y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Cette image, elle continue dans la nouvelle alliance avec Jésus. Nous sommes la vigne. Dieu enlève les pierres de notre vie. c'est-à-dire le péché, il nous pardonne, il nous sauve, il creuse, hein, il fait des choses et il nous plante dans le salut, il nous sauve, il nous pardonne nos péchés. Il dit maintenant, j'attends que ma vigne porte du fruit. Et il y a des chrétiens qui portent du fruit et il y a des chrétiens qui ne portent pas beaucoup de fruits. Et dans Jean 15, Jésus dit, je suis le cep. Il rajoute quelque chose à l'image. Il dit, je suis la vigne, en fait. Hein? Parce que ce n'est pas simplement entre Dieu et nous, c'est qu'il y a le Seigneur Jésus qui a un rôle primordial, nous allons le voir. Mais au verset 2, il dit, tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et au verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un sarment, le sarment, c'est la branche qui sort du cep. Hein? Si un sarment ne porte pas de fruits, s'il n'y a pas de raisin, jamais, c'est qu'il y a un problème avec ce sarment. Si un chrétien se dit chrétien et dit moi, j'aime Jésus, Jésus est mon sauveur, et qu'il n'y a aucun fruit dans sa vie chrétienne. Alors qu'est-ce que c'est les fruits quand on parle de fruits? D'abord, c'est que cette personne va avoir une vie qui est changée. Il va y avoir plus de pureté. Il va y avoir un amour pour Dieu. La personne aime être avec Dieu, aime parler de Dieu. Il va y avoir un amour pour les frères en Christ. La personne aime se réunir avec des chrétiens. Il va y avoir un nouveau chant. La personne va aimer chanter les louanges de Dieu parce que Dieu met un chant nouveau dans notre cœur. Et puis il va y avoir de nouveaux comportements au travail, à la maison, dans l'église, partout. Et puis il va y avoir aussi des bénédictions qui découlent de la vie de cette personne. Cette personne va bénir les autres. Les gens qui seront en contact avec cette personne vont être touchés, encouragés, aimés, fortifiés, sauvés pour certains. Mais s'il n'y a aucun fruit de ce genre, alors Jésus dit, on prend le sarment, on le jette au feu et il brûle. C'est un sarment qui n'est pas, en fait, vivant. C'est un sarment qui est mort. Pourquoi un sarment dans une vigne ne porte pas de fruits? C'est parce qu'il est mort. Il est là, il est, vous le voyez, toujours attaché, mais en fait, il n'est plus relié vraiment, il n'y a plus la sève qui le rend vivant. Il est juste là pour faire joli. C'est un peu comme les fleurs qu'on achète chez le fleuriste. Et les fleuristes n'aiment pas trop qu'on insiste là-dessus, mais ce sont des fleurs mortes qu'on achète. Elles sont déjà mortes quand vous les achetez. Vous dites, mais non, elles ont l'air très vivantes et très belles. Ils ont tout un tas de techniques pour les faire apparaître comme ça. Ils ont même des produits qu'ils mettent dessus, des colorants, des choses qui les tiennent quelques heures, le temps que vous les achetiez, puis quand vous arrivez à la maison. Leur mort commence à se révéler très vite. Eh bien, il y a des chrétiens qui ne sont pas vraiment chrétiens, qui sont comme ça. Ce sont des fleurs mortes. Ils ont l'air vivants, ils vont à l'église ou ils ont une Bible ou ils prient des fois, mais il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de nouvelle naissance. Et Jésus, dans son image, là, il dit, faites bien attention. Il y a les sarments vivants et il y a les sarments morts. Les morts, ils ne servent à rien, on les jette. Et attention d'être un vrai chrétien. Vous me dites, mais comment savoir si je suis un vrai chrétien? Je vous l'ai dit, est-ce qu'il y a du fruit dans votre vie? Alors comment être sûr que je suis un vrai chrétien? Parce que je crois que j'ai un peu de fruits, mais pas tant que ça. Eh bien, encore une fois, quand vous priez, est-ce que vous êtes porté par Dieu? Est-ce que vous aimez parler avec Dieu? Est-ce que vous aimez lire la Bible? Est-ce que quand vous lisez la Bible, vous attendez que Dieu vous parle? Vous avez une soif de Dieu. Est-ce que c'est plus fort que vous? Il faut que vous parliez de votre foi aux gens autour de vous. Il suffit qu'il y ait une conversation qui parle de la société, des problèmes. Forcément, il faut que vous mettiez votre grain de sel en disant, mais vous savez, il y a une solution. Il y a Jésus. Il a changé ma vie. Est-ce que vous avez un témoignage? Est-ce que vous pouvez dire, ah oui, avant, moi, j'étais vraiment perdu. Maintenant, je sais que je suis pardonné. Ça s'obtient pas par une opération mystérieuse. C'est quand on reçoit Jésus-Christ dans sa vie qu'on a cette assurance, ce changement de vie. Et puis Jésus encourage ceux qui lisent et ceux qui sont avec lui, verset 3, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il dit à ses disciples et à nous qui lisons, vous qui avez cru à ma parole, vous êtes purs, c'est-à-dire vous, vous êtes vivants, vous êtes des vrais sarments. Et c'est vrai que dans l'Église, que ce soit l'histoire de l'Église ou les Églises aujourd'hui, il y a toujours dans une Église des vrais chrétiens et des faux chrétiens. Et les faux chrétiens ne sont pas faux forcément parce qu'ils sont mal intentionnés, hein, mais ils se persuadent qu'ils sont chrétiens. Mais ils n'ont jamais vraiment donné leur vie au Seigneur parce qu'ils retiennent. Ils ne veulent pas céder leur vie, céder leur volonté à Dieu. Alors, ils veulent avoir une bonne conscience et dire, moi, je suis chrétien, j'aime bien la Bible, j'aime bien l'ambiance à l'église, on est entre frères et sœurs, on s'entend bien. Mais ils ne sont pas prêts à donner leur vie à Christ. Ceux-là ne sont pas des vrais chrétiens, souvent. Mais les vrais chrétiens, eux, sont des sarments attachés au cep. Et au verset 2, mais la fin du verset, il dit, tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Le vigneron passe beaucoup de temps à émonder. Émonder, c'est qu'il prend son sécateur et il coupe les sarments, les branches. Et il les coupe sévèrement. Donc vous voyez comment les vignerons font les choses. On a un frère de Banyuls, là, il pourrait en parler mieux que moi. Hein. Il est souvent dans les vignes pour faire les vendanges, etc. Il faut le couper parce que plus vous le coupez, plus il va y avoir de sève dedans. Et plus il y a de sève, plus le raisin va être beau. Si vous laissez le sarment pousser, le sarment va devenir un long spaghetti et dessus vous allez avoir des trucs rabougris. Et ce que Jésus veut nous enseigner par là, c'est que lorsqu'un sarment est sauvé, quand un chrétien est sauvé, qui commence déjà à porter du fruit, Dieu va l'émonder pour qu'il porte encore plus de fruits. Alors vous me dites, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle là? Dieu va couper quoi dans ma vie? Alors, émonder, qu'est-ce que ça veut dire? Ben déjà, ça veut dire faire diminuer. Et pour grandir dans la foi, il faut qu'on diminue. Il faut que mon ego diminue. Il faut que je sois plus humble. Et que Christ grandisse. Rappelez-vous, hein, les paroles de Jean le Baptiste. Il a dit, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Pourtant, Jean-Baptiste était loin d'être un orgueilleux ou d'être quelqu'un qui se vantait. Hein. Il vivait dans le désert, il était habillé comme un, je sais pas comment dire, comme un ermite, hein, de peau de bête. Il mangeait des sauterelles avec du miel et il prêchait la repentance. Ce n'était pas quelqu'un de médiatique ou qui cherchait à plaire, pas du tout. Et pourtant, il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et ça, c'est la première leçon pour avancer dans la foi. Très souvent, notre ego prend toute la place. On pense qu'à soi. Même on peut être chrétien et ne penser qu'à soi. C'est-à-dire, je veux que Dieu me bénisse, je veux que Dieu me guérisse, je veux que Dieu pourvoie mes besoins. Quand je suis triste, je veux que Dieu me donne de la joie. Quand je suis pauvre, je veux que Dieu me donne de l'argent. Et on est un chrétien qui est tout le temps en train de se centrer sur lui-même. Pour progresser dans la foi, il faut diminuer, il faut que Dieu coupe notre ego. L'humilité n'est pas du tout une vertu dans notre monde, hein. Au contraire, dans notre monde, l'humilité est un défaut. Ah, oh, mais il faut que tu aies confiance en toi, il faut que tu te vendes, il faut que tu gagnes, vas-y, c'est la loi de la jungle ici, c'est le meilleur qui gagne. L'humilité, ce n'est pas le manque de confiance en soi. L'humilité, c'est de mettre toute sa confiance en Dieu. Et quand on a mis sa confiance en Dieu, on a confiance dans la vie, on a confiance dans ce qu'on fait. On n'a pas besoin de gonfler son ego avec une pompe à vélo pour aller mieux dans sa vie. On a besoin au contraire de diminuer. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire de correct. Et c'est une leçon dure à prendre parce qu'on se dit, mais quand même, j'ai fait des études, quand même, je suis intelligent. Et puis ça, j'ai toujours réussi à le faire. Et puis, par exemple, on se marie, on dit, ah ben, on est chrétiens tous les deux, donc le mariage, tout va bien aller, ça va être facile, on s'aime, il y a le Seigneur. Et puis, on commence à oublier que le Seigneur a sa part dans le mariage, que pour que l'amour grandisse, il faut aller vers le Seigneur pour apprendre à se pardonner. Il faut aller vers le Seigneur pour apprendre à s'aimer plus. Il faut que le Seigneur soit là. Et si on oublie ça, le mariage, même chrétien, commence à se déliter. La statistique est implacable. Il y a autant de divorces chez les chrétiens dits évangéliques que dans le monde, hein, que chez les non-croyants. C'est pas normal. Ce n'est pas acceptable. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Si on est chrétien, Christ doit tenir le mariage. Et les chrétiens doivent édifier leur mariage, leur couple sur le Seigneur. Émonder, c'est diminuer. Émonder, c'est aussi enlever les parties inutiles. Il y a des choses inutiles dans notre vie. Et Dieu veut les enlever. Alors, autant le vigneron, il coupe sans rien demander au sarment. Hein. Et clip, zip, coupe, il n'y a plus rien. Autant dans notre vie chrétienne, le Seigneur est très doux avec nous. On pourrait dire trop parfois. Mais le Seigneur laisse toujours la liberté à l'être humain. Autant dans la nature, les végétaux, les animaux n'ont pas beaucoup de liberté, autant l'être humain a été créé à l'image de Dieu, donc avec cette capacité de dire oui ou non à son Créateur. Mais Dieu veut enlever ce qui est inutile. Il y a des choses dans notre vie qui sont des fardeaux, des poids, des choses qui nous empêchent d'avancer dans la vie chrétienne. En général, ce sont des idoles. Il y a des choses qui remplacent Dieu. Ça peut être l'argent, on compte sur son argent, ça peut être les biens matériels, la consommation, acheter tout le temps, posséder des choses. Ça peut être de la musique, ça peut être le cinéma, ça peut être le sport, ça peut être... N'importe quoi peut devenir une idole quand ça prend toute la place et que ça nous empêche de grandir. Et ça, un chrétien peut le sentir dans sa vie. Je ne vais pas plus loin dans ma vie chrétienne parce que, au fond, il y a quelque chose qui prend toute la place. Et c'est vrai que notre monde nous offre une carte remplie de choses merveilleuses. Hein. C'est vrai, avec tout ce qu'on a, les ordinateurs, les télévisions, le cinéma, les voyages, les vacances, les avions, les voitures. Mais il y a 36 milliards de choses à faire, autres que d'aller à l'église, de prier, de lire la Bible, de... Et même nous, chrétiens, on est pris par ces choses. Et pour aller plus loin, il faut se laisser émonder. Seigneur, tu vois, il y a cette idole dans ma vie. J'y tiens, tu sais, j'y tiens. Mais je sais bien que ça m'empêche d'avancer. Seigneur, coupe-la. Et le vigneron va la couper pour vous. C'est pas vous qui l'arrachez, c'est lui qui le coupe. Et c'est une prière difficile à faire. Seigneur, coupe ce lien qui m'empêche d'avancer. Mais quand vous le faites, vous vous sentez plus léger, c'est qu'à le dire, mais surtout, vous allez voir le fruit tout de suite. Émonder, c'est diminuer, émonder, c'est enlever ce qui est inutile. Émonder, c'est aussi parfois être sévère dans la coupe par les épreuves. On se demande pourquoi, quand on est chrétien, on a toujours autant d'épreuves. On se dit, mais... Si je suis un enfant de Dieu, pourquoi il n'enlève pas les épreuves de ma vie? Pourquoi tout n'est pas plat et rose? Pourquoi il n'aplanit pas les montagnes comme il l'a dit? Le Seigneur n'a pas dit qu'on aurait moins d'épreuves parce qu'on est sauvé. Par contre, il a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit qu'il ne permettra pas que l'épreuve soit au-delà de nos forces, mais avec l'épreuve, il préparait le moyen d'en sortir. Quand vous entrez dans un tunnel, à pied ou en voiture. C'est quand même un peu effrayant un tunnel, hein. C'est noir, c'est sombre. Et si on est un peu claustrophobe, on ne se sent pas bien. Mais ce qui vous fait tenir dans le tunnel, c'est quoi? C'est qu'il y a une sortie, n'est-ce pas? Vous dites, au moins il y a une sortie. Voilà. Et le verset que je vous ai cité d'un Corinthien dit, avec la tentation, Dieu préparera aussi le moyen d'en sortir. Quand Dieu nous fait passer par une épreuve, ce n'est pas une épreuve due au hasard. Ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus comme ça, bing, ah oh là, pas de chance, dis donc. Dieu veille sur chacun de nous si nous sommes ses enfants. Et les épreuves qui nous arrivent ont un but, nous émonder. Nous, ce qu'on doit savoir, c'est qu'il y a une sortie. Donc, il va falloir tenir bon tout le long du tunnel. Ça peut être le tunnel d'une maladie. Ça peut être le tunnel d'une dépression, parfois. Y a des chrétiens qui ont passé 2, 3 ans en dépression. J'ai rencontré un frère à Strasbourg qui travaillait dans une société de vente de voitures. Et la société a commencé à, comme dans beaucoup de sociétés aujourd'hui, à enlever des employés. Et ceux qui restaient, elle leur a mis le double, triple de travail. Hein, je pense que toutes les sociétés font ça maintenant. Le problème, c'est que ce chrétien a fait un burn-out. Hein, il a été épuisé. Et il est rentré en 2 ans, pendant 2 ans, dans une dépression dont il n'arrivait pas à sortir. Tant qu'il était au boulot et qu'il tenait le coup sur les nerfs, bon, ben, il arrivait. Et puis, quand il a été en épuisement, il a dû passer quelques jours à l'hôpital. Quand il est sorti de l'hôpital, la dépression est sortie. Tout ce qu'il avait accumulé, pris sur lui, le corps l'a relâché. Dépression. Non seulement ça, mais en plus son patron lui a dit, écoutez, ça fait trop longtemps que vous êtes en maladie, je ne peux plus vous garder. Donc il va devoir changer de travail, chercher un autre travail. Mais là, il sort de la dépression et dit, je rends grâce à Dieu parce que Dieu ne m'a jamais laissé tomber. Il dit, moi j'avais des idées noires, je me réveillais le matin, j'avais qu'une envie, c'est de repasser la nuit à dormir. J'avais envie de rien, je me sentais nul, je me sentais vraiment, c'était un sentiment horrible. Et il dit, le Seigneur était là avec moi dans cette dépression et il m'a permis d'en sortir. C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que à la fin, son but, quand il nous émonde, c'est qu'on porte plus de fruits. C'est ça qu'il dit ici. Vous me dites, mais un chrétien qui a été épuisé par la dépression, quel fruit va-t-il avoir? Le fruit, c'est qu'il va d'abord reconnaître que Dieu était là, il va rendre grâce à Dieu, que le Seigneur ne l'a jamais lâché. Et même si parfois il y a des chrétiens qui vont pas être très gentils avec vous si vous êtes déprimé, ils vont dire, ah mais comment, un chrétien doit être toujours joyeux, qu'est-ce qui t'arrive, c'est pas normal. Toujours des mauvais conseilleurs. Mais Dieu, le Seigneur Jésus, lui, il sera avec vous pour vous consoler, pour vous fortifier, vous sortir de là. Et puis, le fruit que vous pourrez porter, c'est aider d'autres personnes qui passent par la même chose. Le fruit que vous pourrez dire, c'est votre témoignage. Je suis sorti de la dépression. Parce qu'il y a des gens qui passent leur vie dans la dépression. Hein. Moi, Dieu m'en a sorti. Le fruit qui peut venir de là, c'est que dorénavant, vous allez compter sur Dieu. Pourquoi cette personne était épuisée? C'est que quelque part, elle a peut-être trop donné pour son travail. C'est quelqu'un de très consciencieux, hein, ce chrétien. Il a tout donné, il a mis, parce que son patron lui demandait de plus en plus et lui disait oui, ben oui, patron, oui, patron, oui, patron, jusqu'au jour où son corps a lâché. Il y a un moment, en tant que chrétien, il faut dire, patron, je ne vais pas pouvoir tenir le coup là. Donc je ne peux pas accepter ce boulot supplémentaire. Il faut prendre le risque. Si le patron vous dit, eh ben alors, tu t'en vas, eh ben Dieu va vous permettre de trouver autre chose. Mais ça ne sert à rien de s'épuiser tout seul. Pour votre patron ou pour votre entreprise, Dieu ne demande jamais de faire au-delà de ce qu'on peut faire de nos forces. L'émondage. Alors pour être émondé, il faut quand même l'accepter. Il faut dire Seigneur, coupe. Je veux aller plus loin. Je veux porter plus de fruits. Coupe ces choses. Et au verset 4 et 5, Jésus dit cette parole qui m'a vraiment beaucoup aidé. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. On ne peut faire aucun progrès sans le Seigneur. Il est le cep. Notre vie spirituelle vient de Christ. Ce n'est pas que quand on se convertit, Dieu nous donne une bouteille de vie spirituelle ou de Saint-Esprit. Il dit, voilà, tu as ta bouteille jusqu'à la fin de tes jours et maintenant il faut l'utiliser. Non. On n'a pas de bouteille, on n'a pas de sac de Saint-Esprit. C'est Christ qui est notre vie. Et tant qu'on est attaché à Christ, tant qu'on demeure avec lui, on a sa vie qui coule. Je suis toujours repris ou secoué par cette promesse de Jésus dans l'évangile de Jean où il dit: Si vous croyez en moi, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Des fleuves d'eau vive. L'eau vive, hein, c'est l'eau qui vient de la source, hein, c'est l'eau qui avance, qui court. Des fleuves. Il ne dit pas un robinet d'eau vive, il ne dit pas un filet d'eau vive, il ne dit pas des gouttes d'eau vive, il dit des fleuves. Et si je demeure en Christ, ces fleuves vont être là. Des fleuves d'amour, des fleuves de joie, des fleuves de paix, des fleuves de foi, des fleuves de pureté, des fleuves d'amour pour les autres, hein, de vouloir donner aux autres. Est-ce que ces fleuves sont en nous? S'ils ne sont pas en nous, c'est que la sève est bouchée, là, hein, il y a un problème de sève. Ça ne passe pas du cep au sarment. En général, c'est une désobéissance qui bouche, une rébellion. On refuse que le Saint-Esprit prenne toute la place. Dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul, dans ce fameux verset du chapitre 2, verset 20, donne son témoignage à ce propos. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça ne veut pas dire qu'il a disparu, qu'il n'est plus Paul, qu'il n'a perdu sa personnalité, hein. C'est pas ça, il ne parle pas de personnalité, il parle de la source de sa vie. Qu'est-ce qui lui donne la force le matin quand il se lève? Qu'est-ce qui donne la motivation de vivre? Qu'est-ce qui lui donne tous ces sentiments d'amour, de joie, de paix, de force? Qu'est-ce qui fait que Paul, il pouvait affronter la prison, la persécution, même la lapidation et continuer son ministère? Paul ne s'est jamais arrêté. Il n'y a rien qui l'a arrêté, ni personne. Ce qui fait, c'est que Christ vivait en lui. Il n'était plus le moteur, son propre moteur, c'était Christ son moteur. Et il dit, j'ai été crucifié, c'était un fait. Hein. Il y a des églises où on vous parle tout le temps de mourir à vous-même. Et on vous dit, voilà, c'est ça qui te manque, mon ami, tu n'es pas mort à toi-même, il faut mourir, il faut mourir, il faut mourir. Bon. C'est un peu morbide. La Bible parle de la mort à soi-même, effectivement, de mourir au péché, mais la Bible dit, tu as été crucifié si tu es chrétien. C'est-à-dire que le jour où tu as cru en Christ, tu as été crucifié avec lui. Et tu es ressuscité avec lui. Et donc tu es une nouvelle personne, tu as une nouvelle vie. Tu n'as pas à être là à mourir. Tu es mort. Ce que tu dois réaliser, c'est que tu es mort, justement. C'est ça qu'il faut réaliser. Et que tu as une nouvelle vie. Et souvent, c'est ça qui nous empêche d'avancer, c'est qu'on n'a pas réalisé ça. C'est qu'on est mort avec Christ. C'est-à-dire, notre ancienne vie, notre ancienne nature, nos anciennes pensées, tout ça, ça a été crucifié. Maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, c'est lui, mon cep, c'est lui dont je tire la source. Quand je suis triste, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me dis, allez, on se réjouit, on va écouter une musique joyeuse, on va faire quoi? On va écouter, on va regarder un film rigolo. Ou quand je suis triste, est-ce que je vais à Christ? Seigneur, redonne-moi ta joie. Quand je redeviens égoïste et dur envers les autres, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me sermonne en disant, oh, c'est pas bien ce que tu as fait quand même. Oui, mais bon, faut dire qu'il était pénible. Hein. Mais non, mais quand même. Est-ce qu'on se fait des leçons de morale ou est-ce qu'on dit, Seigneur, donne-moi ton amour? Quand je sens que je me refroidis par rapport aux frères et sœurs ou à la Bible, à la lecture de la Bible, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me dis, oh là là, tu n'es pas un très bon chrétien. Hein? Ah, de toute façon, j'ai tellement de soucis, de problèmes. Ou est-ce que je vais au Seigneur et dis, Seigneur, redonne-moi les fleuves d'eau vive. Redonne-moi ce goût que j'avais au début, cette soif de découvrir ce que tu veux me dire. Est-ce que Christ est vraiment ma vie? Est-ce qu'il est la source de ma vie? Et quand on comprend cette image qui est toute simple, la sève part du cep et elle coule dans le sarment. Et si le sarment est bien émondé, elle va couler avec force, elle va pousser Et là, les raisins vont être gros, juteux, merveilleux. Et ces raisins vont être un plaisir pour les hommes, hein, vont être un bonheur pour les hommes. Ce raisin, c'est le fruit de l'esprit, hein. Le fruit de l'esprit, dit toujours l'épître aux Galates, hein, on peut lire Galates 5, 22. Autant la grappe de raisin, c'est un fruit avec plusieurs grains. Autant le fruit de l'esprit, c'est un fruit avec plusieurs grains. Et ils sont nommés ici par le Saint-Esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Franchement, si j'ai ça dans ma vie, si j'ai ces fruits-là, j'ai besoin de rien d'autre. Déjà, si j'ai l'amour, ça va tout changer. Si j'ai la joie, ça va tout changer. Et si j'ai la paix, si j'ai les trois premiers déjà, les trois premiers grains, vous avez besoin de rien d'autre. Mais il en rajoute, hein, le Seigneur aime bien les choses riches. La patience, on a besoin de patience dans l'épreuve. La bonté de s'occuper des autres, d'être attentif aux autres. La bienveillance, d'être quelqu'un de paisible, qui cherche le bien et non pas le mal, la vengeance. La foi, combien on a besoin de la foi? La douceur, la maîtrise de soi. La foi, c'est peut-être aussi la fidélité, hein, avec le Seigneur. Voilà le fruit que Christ peut créer en nous. C'est pas nous qui disons, oh, il faut que j'aime plus, je vais aimer plus les gens. Oh, il faut que je sois plus joyeux. Alors je vais faire semblant de sourire, je vais me... Non, non, ça va pas aller très loin tout ça. Quand c'est Christ qui vit en moi, il y a des fleuves. Ça explose. Ça jaillit. Et en plus, c'est intarissable. Les fleuves d'eau vive de Christ, ça ne se tarit pas. Vous dites, est-ce qu'on peut aimer plus? Oui, on peut toujours aimer plus parce que Christ en a plus. Est-ce que je peux avoir plus de joie que ça? Oui, tu peux avoir plus de joie. Parce que Christ vit en toi. Alors, est-ce que nous sommes des chrétiens qui portent du fruit? Est-ce que nous sommes des chrétiens qui progressent dans leur foi? Il faut accepter d'être émondé. D'abord, il faut être attaché au cep, et ensuite, il faut accepter l'humilité, il faut accepter les épreuves qui viennent de Dieu, et il faut demeurer en Christ. Et cette vérité est tellement forte. Demeurer, ça veut dire habiter avec lui, ça veut dire passer du temps dans sa présence. C'est pas juste, j'ai un petit pépin, oh Seigneur, viens à mon secours. Ça, c'est pas demeurer en Christ. Et souvent, nous prenons Christ pour notre distributeur de bénédictions. Hein. Je suis malade, Seigneur, viens me guérir. J'ai un problème, Seigneur, viens à mon aide. C'est bien. Il faut prier quand on a un besoin. Tout ça, c'est bien. Mais ce n'est pas demeurer en Christ. Demeurer en Christ, c'est passer du temps avec le Seigneur. Demeurer, c'est du temps. C'est lui laisser de la place dans ma vie. Combien de place je laisse au Seigneur? Seigneur, tu sais, le matin, bon, ben, je me réveille, je bois, j'avale mon café, je m'habille, je cours vite au travail, je travaille, et le soir, je rentre, je suis crevé, je mange, je me couche, et voilà. Où est la place du Seigneur? Il faut trouver de la place, vraiment. Et il y en a, je suis sûr qu'il y en a. Il y a plein de choses inutiles qu'on peut enlever et mettre le Seigneur. Même utiliser aussi ce qu'on fait. Dans le transport en commun, je peux demeurer en Christ. À mon travail, je peux demeurer en Christ. Vous dites, mais non, je ne peux pas travailler. Si, 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 si. Parce que dans votre travail, vous pouvez être près du Seigneur, continuellement parler avec lui, continuellement lui compter sur lui. Seigneur, là, tu vois, j'ai envie de rien faire. J'ai un coup de paresse, là, Seigneur. J'ai plein de choses à faire, j'ai envie de rien, j'ai trop de trucs en même temps. Je vais laisser un peu couler. Et puis, si vous demeurez en Christ, vous dites, Seigneur, tu vois, aide-moi à prendre chaque chose une à la fois. Et vous allez voir comment le Seigneur va vous aider. En demeurant en lui, vous allez à nouveau aimer votre travail. C'est pas merveilleux, ça? D'aimer son travail quand on ne l'aime plus. Vous allez croiser des gens difficiles, mais que si vous demeurez en Christ, ces gens vont être moins difficiles parce que vous allez être différent avec eux. Hein, ce chrétien qui devait faire face à une personne vraiment pas impossible, mais presque dans son caractère, dans ses attitudes, et qui ne pensait qu'à une chose, c'est lui rentrer dedans parce qu'il n'en pouvait plus. Jusqu'au jour où il a vraiment entendu cette idée de que c'est lui qui devait changer. Alors au début, il était sceptique. Il dit, mais c'est pas moi, c'est l'autre, vraiment, là. Il est impossible, son caractère est. Et néanmoins, il s'est humilié devant Dieu en disant, Seigneur, tu vois, cette personne-là, je ne l'aime pas. Je dois t'avouer, c'est quelqu'un que je n'aime pas. Même, je ne peux pas le voir en peinture. Et je te demande pardon. Et je te prie pour cette personne. Il a commencé à prier pour cette personne. Et ensuite, chaque fois qu'il le rencontrait, l'autre essayait de le titiller, de lui dire des phrases un peu blessantes, un peu. Et lui, ça coulait comme sur les plumes d'un canard. Et non seulement ça, mais il répondait par quelque chose de sympathique. Au point que l'autre, non seulement a changé d'attitude, mais s'est approché de lui, s'est confié à lui, et ils sont devenus quasiment des amis. Comment un chrétien peut devenir ami avec son pire ennemi? C'est quand le chrétien change. Il ne faut pas attendre que le monde change ou que les autres changent. Hein. C'est surtout pas la chose à faire. C'est moi qui ai un problème. C'est moi qui dois demeurer en Christ. Et quand je demeure en Christ, les fleuves d'eau vive vont tout arroser et je vais avoir un fruit merveilleux. C'est ça qui est beau. Dieu veut qu'on soit une belle vigne. Dieu veut qu'on ait des beaux raisins qui réjouissent le cœur de ceux qui les mangent. Dieu veut qu'on soit beau, n'est-ce pas? Pas physiquement, mais spirituellement, moralement. Il veut qu'on soit beau physiquement, des fois, mais c'est pas ça le but dans la vie. Il veut qu'on soit des beaux chrétiens qui donnent envie de venir à Christ, des chrétiens saints, des chrétiens purs, des chrétiens aimants. Alors, est-ce que vous êtes prêts à me suivre dans cette quête, à demeurer en Christ? Que chacun de nous, on demeure en Christ et qu'ensemble, on soit près de Christ. Que Christ soit le centre, soit le premier. Sans moi, dit-il, vous ne pouvez rien faire. On va prier pour terminer.